Bac FM, il est 19h, votre rendez-vous job tous les mercredis du mois, sauf le premier. On parle de sujets d'avenir et de domaines qui recrutent. Avec Marie, on vous présente des métiers et des entreprises dans des domaines plus différents et variés les uns que les autres. Notre invité aujourd'hui est le sergent-chef Thomas. Pour nous présenter le CIRFA, il était déjà notre invité lundi pour nous présenter le forum des métiers en uniforme, le centre d'information et de recrutement des forces armées, c'est le CIRFA. Bonjour.
Bonjour.
Alors, on va revenir sur le parcours d'un jeune qui veut s'engager dans l'armée, sur les qualités à avoir et sur les objectifs de recrutement chaque année. Mais juste avant, l'armée de terre comme l'armée de l'air et la marine, c'est 16 domaines qui comptabilisent en tout 117 spécialités. Ce que vous appelez des spécialités, est-ce que c'est finalement les débouchés des métiers possibles d'exercer au sein de l'armée ?
Le métier de base, en fait, c'est soldat. C'est le métier commun à tout militaire. Après, les spécialités, ça va être combattant, ça va être mécanicien, ça va être infirmier, ça va être maître chien, et ainsi de suite. Voilà. Mais quand un jeune s'engage, il s'engage pour une spécialité. Donc, en gros, c'est un débouché, ce qu'il va faire, en fait, dans son avenir à l'armée.
Et ça veut dire quoi être sergent-chef, alors, justement ? Parce que c'est une question qui peut paraître bateau pour vous,
oui.
Mais pour les auditeurs qui nous écoutent et qui ne connaissent pas forcément ce domaine-là, qu'est-ce que ça veut dire être sergent-chef ?
Alors, moi, j'ai commencé... Parce que j'ai eu mon bac, donc j'ai commencé directement sous-officier. Donc c'est quoi ? C'est la branche, c'est la porte du milieu, en fait. C'est quelqu'un qui va commander un groupe de combat. Voilà, c'est ce que j'ai fait moi pendant 13 ans. J'ai commandé, j'étais dans la cavalerie blindée, donc j'ai commandé deux véhicules blindés. Voilà, donc 6 personnes. Donc ça, c'est quand j'ai commencé. Et être sergent-chef, c'est quelqu'un qui a passé son examen supérieur, et au final, je commandais 30 personnes. Donc c'est ça, être un sergent-chef. Puis un adjudant, donc c'est le grade encore supérieur, on commande, on est là pour commander une section ou un peloton, donc ça veut dire une trentaine de personnes en tout.
Dans les domaines que vous évoquiez tout à l'heure, on va revenir aussi sur votre parcours tout à l'heure, Marie se chargera de vous faire cet interrogatoire musclé à mon avis.
Tout à fait.
Quel est le domaine le plus populaire, le plus demandé justement par les jeunes dans l'armée quand ils s'engagent ?
Alors le plus populaire qui est demandé par bien 90% des jeunes, on va dire, ça reste l'infanterie, donc les combattants à pied. Voilà, donc c'est là, c'est ceux qui sont au plus proche, en fait, de l'action, hein, et également l'arme blindée cavalerie dont je fais partie. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle, nous, les métiers de mêlée.
D'accord, donc ça, ce sont les domaines les plus populaires. Mais du coup, il existe aussi des domaines qui sont un peu moins connus par le grand public, qui sont un petit peu plus obscurs, si je puis dire. Donc il y a notamment la restauration, la musique, le sport, ce genre de choses. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, nous parler un peu de l'importance qu'ils peuvent avoir au sein de l'armée ?
Alors, pour savoir, dans l'armée, nous sommes toutes armes confondues, donc que ce soit la marine, l'armée de l'air, l'armée de terre, la gendarmerie, à peu près 200 000 hommes. En combattant, ça représente, en combattant pur, d'accord, donc en spécialité de combattant, on va être, ça va être 10%. Tout le reste, c'est le soutien. Le soutien dont fait partie la restauration, la musique, le sport, les transmetteurs par exemple, également, ou les mécaniciens, et ainsi de suite. Donc c'est très important pour l'armée, parce que ça représente pratiquement 80% en fait des militaires qu'on a en France. Donc c'est ça qui est très important, c'est que on n'en parle pas beaucoup, malheureusement, c'est assez mal connu, mais c'est la partie la plus importante de notre institution.
D'accord, et donc mais ces domaines, pour en revenir un petit peu dessus, est-ce que vous pouvez par exemple nous expliquer un peu leurs différences par rapport à leur équivalent un peu plus civil ? Donc, comme je disais, par exemple la restauration, qu'est-ce qui différencie vraiment quelqu'un qui travaille dans la restauration au sein de l'armée et quelqu'un qui travaille dans la restauration de manière plus lambda ?
Alors, il y a des grosses différences quand vous êtes dans les cuisines ou serveurs en régiment, c'est que vous allez faire manger pour 800 à 1000 personnes. Déjà pour commencer, tous les midis, et bon un peu moins les soirs parce qu'il y en a moins qui vont manger les soirs, mais ça reste quand même assez volumineux. Quand vous êtes par exemple, pareil dans le domaine de la restauration, en état-major, bah là vous allez servir ou faire à manger pour des généraux, pour des ministres, pour des députés, pour des sénateurs. Ça reste quand même des personnes assez importantes.
Et ce qui change aussi, c'est le public auquel on s'adresse.
Voilà, tout à fait. En régiment, vous allez avoir de tout, hein, que ce soit du soldat ou de l'officier. Donc les officiers, c'est vraiment nos chefs. Mais en état-major, c'est ce qu'on peut appeler le gratin, finalement.
D'accord. Mais donc pareil, pour parler toujours dans ce genre de différence, un autre exemple, par exemple, la musique. Les musiciens au sein de l'armée, c'est quoi vraiment leur rôle précisément par rapport à des musiciens d'un conservatoire, par exemple ?
Alors déjà, pour pouvoir s'engager dans la musique dans l'armée, il faut avoir fait un conservatoire, déjà, pour commencer. Et après, les musiciens dans l'armée, ça va être surtout du rayonnement. Ils vont être présents lors de nos défilés, par exemple, de nos commémorations. Voilà. Des musiciens au combat, il n'y en a pas.
D'accord. Alors,
c'est plus comme avant où il y avait les tambours, vous savez, avant qu'il y ait la charge qui parte. Non, là maintenant c'est vraiment plus du rayonnement.
C'est une modernisation aussi de la manière d'exercer aussi ce domaine-là. C'est
oui.
plus la manière d'avant de faire. C'est encore une fois, on en parlait lundi, c'est de casser aussi les stéréotypes
oui.
dans ces domaines-là aussi.
Tout à fait. Donc là, ils vont beaucoup travailler donc, sur nos périodes où on. Les commémorations, les défilés, mais également avec l'étranger. Notre musique est quand même assez réputée, que ce soit à l'international. Donc il y a également des concours entre les différentes armées. Donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment du rayonnement pour pouvoir promouvoir l'armée française.
D'accord, très bien. Et du coup, donc tout ce groupe de domaines un petit peu plus méconnus, est-ce qu'ils sont beaucoup demandés ou du coup ils le sont un peu moins vu qu'on n'en parle pas beaucoup au final? Est-ce qu'ils sont un peu moins prisés par les gens qui voudraient s'engager?
Ils sont beaucoup moins prisés par les jeunes qui veulent s'engager pour des raisons qui sont simples. Quand un jeune veut s'engager dans l'armée, c'est qu'il veut, il veut de l'action.
Mmh.
Voilà. Il veut de l'action, il veut partir au combat, il veut bouger.
Il veut de l'immédiat tout de suite.
Voilà, il veut de l'immédiat, il veut bouger, il veut aller dans d'autres pays. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que le métier de base, ça reste soldat. Et que l'on soit musicien, cuisinier ou mécanicien, on est de toute façon avec les combattants. À part, comme je l'ai dit, les musiciens. Mais on est avec les combattants, on est tout le temps avec eux. Je préparais de mon expérience personnelle tout à l'heure. Ils sont avec nous, devant.
D'accord.
Également. Donc, ce que les jeunes ne comprennent pas forcément, c'est que une personne dans la maintenance, par exemple, va même plus partir qu'un combattant.
Ils ont une participation différente par leur engagement, mais leur importance reste quand même.
Elle est primordiale. Elle est vraiment beaucoup plus primordiale qu'un combattant, parce que vu que tout le monde est soldat, tout le monde connaît le maniement des armes, tout le monde connaît le combat, tout le monde apprend la même chose. Alors, c'est sûr qu'un combattant va être beaucoup plus spécialisé là-dedans. Tandis qu'un mécanicien ou un transmetteur ou un cuisinier va avoir sa spécialité, mais il sait également utiliser ses armes et se battre. Et c'est ça qui est le plus important, c'est également quand même ce soutien-là.
Justement, dans un article qui est paru cet été, Fabien Ortega, qui est adjudant, annonce qu'en 2022, l'armée de terre recrutera 16 000 hommes et femmes dans trois catégories différentes.
Oui.
Alors, c'est deux questions. Quelles sont déjà ces différentes catégories? Et est-ce que c'est un objectif qui va être atteint? On est en octobre, ça arrive très vite, la fin de l'année, dans deux mois. Est-ce que l'objectif de 16 000 recrues sera atteint?
Alors déjà, les différentes catégories. Donc les différentes catégories sont, alors la première, les soldats, ce que nous appelons les engagés volontaires de l'armée de terre, donc ce qui reste le socle, hein, la base de la pyramide.
Avec ou sans diplôme d'ailleurs.
Avec ou sans diplôme, tout à fait. Et là, on recrute 14 000 personnes pour ce premier socle. Le deuxième socle, les sous-officiers, dont je fais partie, ce sont les techniciens, en fait, en gros, donc les chefs de groupe, ceux qui commandent en intermédiaire, voilà, donc un petit groupe de combat, par exemple. Là, on en recrute à peu près 1500 dans l'année. Et enfin, vous avez les officiers, qui ont pour objectif de commander beaucoup, beaucoup d'hommes, voilà, ce sont nos cadres supérieurs. Là, on est à peu près à 250 personnes par an. Et les 250 derniers, ça reste une école qui s'est créée à Bourges, hein, l'école de la maintenance, tout simplement, où on peut y rentrer à partir de la première.
Ça regroupe quoi, la maintenance, en fait? L'école de la maintenance, mais en fait, le terme maintenance, ça regroupe quoi? Ça regroupe aussi du mécanisme, ça regroupe plein de domaines?
La mécanique, l'électronique, l'électrotechnique. Là-dedans, on peut y avoir des bacs techno STI 2D. On peut retrouver au lycée des bacs pro système numérique, des bacs pro maintenance des véhicules. C'est vraiment tout, ça va de la maintenance du petit pistolet jusqu'au char, en passant par nos systèmes de communication, en passant par nos lunettes de vision nocturne, en passant par tout ce que vous pouvez trouver comme matériel dans l'armée. Il y a besoin de maintenanciers.
Oui, c'est très complet.
C'est très 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 complet et très qualifiant. Donc, l'armée fait passer du coup des diplômes également qui sont valables dans le civil avec de l'expérience.
Et l'armée fait passer des diplômes, ça peut être aussi le cas pour des personnes qui s'engagent et qui ne sont pas diplômées, parce qu'on peut s'engager sans avoir de diplôme tout court, c'est possible aussi, et ça peut être une possibilité pour les jeunes derrière. Alors on parle de diplômes, ça peut être des diplômes scolaires, mais ça peut être aussi des diplômes comme le permis, ça peut être plein de qualifications qu'on peut acquérir grâce à l'armée, parce qu'il y a aussi le domaine du transport qui est important dans l'armée aussi.
Quand un jeune rentre soldat sans diplôme, il va faire ses trois premiers mois de classe. Après, il va faire sa formation de spécialité par rapport à la spécialité où il s'est engagé. Cette formation-là, donc c'est 6 mois, ce socle de 6 mois de formation, va lui donner ce qu'on appelle un certificat pratique. Avec 2 ans d'expérience, ce qu'on appelle la VAE, la validation des acquis par l'expérience, il aura l'équivalent d'un BEP dans sa spécialité.
Donc il repart forcément avec un diplôme.
Oui.
Enfin, il acquiert forcément un diplôme.
Et bien sûr, après, peut arriver les différents permis, que ce soit le permis voiture, poids lourd, super lourd, les transports en matière dangereuse, s'il s'engage pour les essences, pour les munitions, par exemple, des CACES, hein, s'il veut devenir magasinier, par exemple. On fait passer aussi des monitorats secourisme, des monitorats combat corps à corps. C'est vraiment un jeune qui rentre. S'il fait une carrière, il faut quand même un certain nombre d'années. Attention, hein, c'est pas comme ça. Dès qu'on arrive, on a notre diplôme, bien sûr, ou notre permis. Mais sur une période de 10 ans, moi, je suis rentré avec un bac, avec mon permis voiture. J'ai le permis poids lourd. J'ai conduit des chars. Je suis formé sur le secourisme. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'ai 2 BTS.
Des choses que peut-être vous ne pensiez pas acquérir avant, et Marie reviendra dessus quand on parlera de votre parcours. On parle depuis tout à l'heure de jeunes, on parle de jeunes, mais dans les jeunes, il y a aussi des jeunes femmes qui peuvent s'engager dans l'armée. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il y a de plus en plus de femmes qui s'engagent?
Il y a de plus en plus de femmes qui s'engagent, en effet. On en voit de plus en plus, rien qu'au CIRFAN Nevers, qui viennent nous voir pour prendre des informations ou ouvrir un dossier. On est à peu près entre 16 et 20% de femmes dans l'armée de terre. Dans l'armée de l'air, la marine, c'est un peu plus élevé. Pour ça, j'ai plus élevé. C'est comme je l'ai dit, hein, l'armée de terre reste un milieu comme assez masculin. Hein, mais ça se démocratise beaucoup plus.
Est-ce que c'est regrettable que les femmes se tournent pas encore vraiment vers l'armée de terre et qu'elles se tournent plus vers d'autres corps d'armée?
C'est très regrettable, oui, parce qu'elles pensent qu'elles ne vont pas y arriver. Tout simplement, qu'elles ont pas de
niveau. C'est la raison.
Et c'est la raison principale. Vous, mesdemoiselles, excusez-moi, je vous parle directement, vous vous dévalorisez. Et c'est bien dommage, parce que vous avez tout à fait tort. Je vous le dis clairement. Vous pouvez toutes y arriver, si vous en avez la motivation.
C'est un appel aux femmes de s'engager dans l'armée. Et justement, vers quel domaine elles se tournent, les femmes qui s'engagent justement?
Alors, il y a un must-have pour les femmes, c'est de devenir maître chien. Très grosse partie, on va dire, les 3/4 des jeunes femmes qui viennent nous voir veulent devenir maître chien. Alors maître chien, c'est bien, ça fait partie de l'infanterie. Donc c'est vers cette spécialité-là qu'elles se tournent le plus. Et en plus, le pire, c'est que vous y arrivez très bien.
Est-ce que année après année, vous constatez une augmentation de l'engagement de personnes qui s'engagent dans l'armée?
Ça reste assez stationnaire, parce qu'on recrute, comme vous avez dit, 16 000 personnes. En fait, on recrute pas plus, c'est juste un renouvellement des effectifs, à peu près, on va dire, 10% par an, entre les anciens qui s'en vont, voilà, à la retraite, ceux qui ont fait leur temps, soit 5 ans, 10 ans, 15 ans, et qui arrêtent. Pour le moment, on ne recrute pas plus. Voilà, on a recruté plus à partir de 2015, et malheureusement, les attentats qu'il y a eu en France. Mais là, on est stationnaire depuis 2015.
Je voudrais pas revenir spécifiquement sur les attentats, mais est-ce que le recrutement se fait aussi en fonction de l'actualité, avec la guerre qui se rapproche de plus en plus de nous? Est-ce que l'armée suit l'actualité et il y a un risque que l'armée demande de plus en plus d'engagement de la part des citoyens?
Il y aura, je pense, pour l'instant, il n'y a rien de concret. On n'a pas ressenti une demande supérieure des jeunes pour pouvoir s'engager depuis qu'il y a la guerre en Ukraine, malheureusement. Pour le moment, on reste sur nos effectifs. Voilà, on n'a pas de nouvelles supplémentaires si on va augmenter les effectifs ou quoi. Pour le moment, non. Donc, on suit bien sûr l'actualité. Hein, il y a eu, suite aux attentats, une demande forte de la fameuse mission Sentinelle, où on patrouille dans les gares, dans les rues de France.
Alors ça, en fait, c'est... Si on veut parler avec des mots plus simples, on va dire entre guillemets, c'est de la surveillance.
La surveillance, tout à fait. C'est la surveillance, c'est de la dissuasion exactement. C'est pour dissuader des gens mal intentionnés de s'en prendre à la population française, tout simplement. Et donc là, on a eu besoin de plus de militaires, parce qu'il fallait armer nos missions extérieures, mais également armer cette mission intérieure qui, quand même, consommait 11 000 hommes tout au long de l'année. Tout le temps, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc là, on avait eu besoin de plus d'hommes. Donc on a recruté plus à partir de 2015. Mais maintenant, depuis 3 ans, on a atteint notre objectif. Et là, c'est du renouvellement. Pour l'instant, la guerre à l'est de l'Europe n'a eu aucun effet sur notre recrutement.
N'a aucun impact pour l'instant, mais justement, non. Le recrutement, il se fait aussi par des spots télé, des spots radio. Oui. C'est important, ça, pour les jeunes, pour inciter les jeunes à s'engager.
Ça permet de montrer sur ces petits spots courts, un petit peu, un petit encart de la vie d'un militaire. Hein, c'est très court, mais c'est surtout pour lui donner envie, hein, de voir qu'est-ce qu'il pourrait faire. Voilà, parce que, je peux vous dire, à l'armée, on fait énormément de choses. On a beau avoir une spécialité. En fait, au final, quand on fait une carrière longue, on a vraiment beaucoup plus de spécialités et tous les jours restent quand même très différents.
Et inciter les jeunes peut-être à trouver leur voie aussi en intégrant l'armée, une voie qu'ils n'avaient peut-être pas pensé, imaginer exercer avant.
Il y a beaucoup de jeunes qui pensent qu'ils ont besoin de rien, que leur vie est très bien. Et en fait, quand ils viennent à l'armée, ils découvrent qu'ils ont besoin du travail en équipe, de cette fraternité. Certains ont besoin de rigueur et de discipline, ils ne le savent pas. Et en fait, quand ils arrivent, quand ils viennent nous voir, ils découvrent ce côté-là, et en fait, bah, c'est vachement bien. Tout simplement, et ces jeunes-là, ils sont très heureux chez nous.
Juste avant de continuer cette présentation du CIRFA à l'occasion de l'émission Job, je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale. Simple Plan, vous êtes sur Bac FM. Simple Plan sur Bac FM, vous êtes dans Job. Notre invité est le sergent-chef Thomas. Il nous présente le CIRFA.
Puisqu'on parle un petit peu du recrutement des jeunes, peut-être vous pouvez nous parler un petit peu de ce qu'il faut pour être recruté, donc que ce soit l'âge, le niveau d'études, ce genre de choses.
Alors, un jeune, déjà il y a des prérequis. Donc déjà, la première, pour rentrer dans l'armée de terre française, de base, il faut être de nationalité française. Si vous ne l'êtes pas, c'est pas un souci, on va pouvoir vous aiguiller vers la Légion étrangère, qui est un corps de l'armée de terre, mais qui est vraiment un corps à part, qui a un recrutement à part. Il faut avoir entre 17 ans et demi et 32 ans. Pour être soldat sous-officier, 17 ans et demi et 29 ans, et pour être officier, ça peut monter jusqu'à 32 ans. Pour devenir un soldat, il n'y a pas besoin de diplôme particulier, même si vous n'avez pas le brevet des collèges, vous pouvez venir chez nous, c'est pas un souci. On est là, l'armée forme ses jeunes, et comme je vous ai dit, avec un temps d'expérience, il ressortirait avec un diplôme reconnu. Pour être sous-officier, il faut avoir minimum le bac. Ça, c'est la condition sine qua non. Et pour être officier, il faut avoir une licence, donc un bac plus 3 au minimum. Il faut également avoir fait sa journée de défense et citoyenneté, que vous passez à 17 ans. Et il faut jouir de ses droits civiques. En gros, c'est quoi ? C'est pas être sous le coup d'une condamnation judiciaire. Tout simplement.
Il ne faut pas avoir de casier judiciaire pour intégrer l'armée.
Si, on peut avoir un casier judiciaire. Alors, tout dépend.
Oui, tout dépend de la gravité des faits, c'est ça ?
Voilà, des faits très graves. Bien sûr, vous ne serez pas pris, mais des petites bêtises de jeunesse, on donne une deuxième chance.
D'accord.
D'accord. Et donc, justement, en parlant de ça, quelles sont les qualités ? Donc là, c'est un peu moins officiel, mais quelles sont les qualités que vous voudriez trouver chez un jeune qui veut s'engager ? Donc, qu'est-ce qu'il y a à cocher pour vous, pour que le jeune soit pris ?
Bon, je vais vous dire, il n'y aurait qu'une seule case à cocher, c'est la motivation. Juste la motivation. Pourquoi ? Un jeune qui n'a jamais travaillé en équipe, donc un jeune qui ne sait pas ce qu'il aime ça, il va le découvrir. La rigueur, c'est pareil, il va la découvrir. La discipline, il va la découvrir. La fraternité, il va la découvrir. Donc ça, c'est pas vraiment des qualités dont on a vraiment besoin au début. C'est vraiment que la motivation d'avoir servir son pays. Alors certains rentrent dans l'armée parce qu'ils veulent trouver un métier, tout simplement, ils ne savent pas quoi faire d'autre, c'est très bien. Mais il faut être motivé, tout simplement. C'est la première des choses. C'est un métier qui est exigeant, un métier qui peut être dur, un métier qui offre beaucoup de possibilités, mais l'armée reste une méritocratie. Méritocratie, c'est quoi ? Vous évoluez au mérite. Si vous vous donnez pour l'armée, l'armée va vous le rendre en vous faisant évoluer, en vous faisant passer des diplômes, des permis, des qualifications, et ainsi de suite. C'est sûr que si vous êtes là juste parce que vous avez vu la lumière et que vous voulez pas faire beaucoup plus, vous allez stagner. Mais ça, c'est comme dans toute entreprise. La différence entre certaines entreprises et l'armée, c'est que l'armée, c'est un escalier social. Un escalier social, c'est quoi ? On monte les marches, ça fait mal aux jambes, donc c'est au mérite, tout simplement. Tandis que d'autres, ça peut être un ascenseur, donc vous avez juste à rentrer dans la cabine, appuyer sur le bouton, ça monte tout seul. Voilà la différence.
D'accord, mais du coup, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du déroulement quand un jeune vient et qu'il est recruté ? Comment est-ce qu'il est accompagné, donc justement pour monter ses marches ? Comment est-ce qu'il est entouré pour avancer ?
Alors déjà, un jeune va venir, ou une jeune femme, bien sûr, va venir prendre rendez-vous pour avoir une information. Il a vu un spot télé, comme on a vu tout à l'heure, un reportage, un film, peu importe. Où il est venu par exemple au forum pour poser des questions génériques, il veut revenir nous voir, donc il va avoir une information spécialisée par rapport à lui ou à elle. Donc ils remplissent une petite feuille d'information, ils disent voilà, qu'est-ce que vous avez vu qui vous plaît ? Soit la fronterie, pour les dames, maître chien par exemple, ou autre chose, peu importe, les transmissions, la cuisine, comment ça fonctionne. Donc on leur parle de ces spécialités-là. On essaye également de couvrir un maximum les différentes spécialités par rapport à la personne. Généralement, ils demandent c'est quoi vos passions, quel est votre caractère, comment est-ce que vous voyez dans 10 ans, s'ils le savent, et ainsi de suite. Savoir s'ils sont sportifs ou pas du tout, enfin bref, vraiment très complet. Si la personne est intéressée, si au final... Bon, ce qu'on lui a dit, ça lui parle, elle va pouvoir récupérer un dossier de recrutement. Donc là, c'est un dossier papier à remplir avec quelques papiers à fournir, c'est-à-dire la carte d'identité, la carte vitale, ce genre de choses. Dès qu'elle est prête, la personne est prête à venir ramener son dossier, donc il faut qu'elle soit prête mentalement, psychologiquement et physiquement, parce qu'il y a également des prérequis au niveau du sport, qu'on fait passer après en évaluation. Dès que tout ça c'est prêt, elle ramène son dossier. Nous, dans le mois qui suit, on l'envoie en évaluation à notre caserne à Lyon. Elle passe ses évaluations, si tout est bon, elle revient nous voir. Donc ça sera la troisième partie, ce qu'on appelle, nous, l'orientation. Où là, on voit son projet, ses résultats. Si les deux collent, on l'oriente sur un poste qui pourrait lui convenir, peu importe le régiment, partout en France, peu importe. Si ça ne colle pas, on va lui proposer tout le panel de spécialités dont elle peut faire partie via ces résultats-là. Si c'est bon, on l'oriente, si elle est prise, après elle s'engage. Et c'est parti pour l'aventure.
Et justement, cette évaluation, ça concerne quoi en fait ?
Alors, cette évaluation se déroule à Lyon, donc c'est sur 2 jours. Donc on va découper les 2 jours en 4 demi-journées. Première demi-journée, on va parler, ça va être surtout la visite médicale. Bon, là, on va checker la totalité de la personne, de la tête aux pieds, les yeux, les oreilles, les membres supérieurs, enfin bref, tout. Là, il y a soit elle est apte, soit elle est inapte. Voilà. Donc là, ce sont les médecins militaires qui décident. Donc en grande majorité, les gens sont aptes quand même. à 20 ans, on est quand même en forme. L'après-midi, il va y avoir ce qu'on appelle des tests psychotechniques. Donc c'est sur ordinateur, c'est sous forme de QCM. Bon, c'est pour savoir un petit peu comment vous réfléchissez. C'est en grande partie des tests de logique. Dans la même après-midi, vous allez avoir des tests, un test de personnalité. Savoir qui vous êtes, comment vous êtes. Là-dedans, tout est épluché. Hein, le rapport à la collectivité, le goût de l'effort, la maîtrise de soi, qui est très importante, par exemple. Vous aurez aussi un petit test d'anglais. Bon, c'est sûr que si vous voulez faire combattant, l'anglais, c'est pas très important. Mais si vous voulez faire pilote d'hélicoptère, là, par contre, l'anglais, super important. Ça, c'est la première journée. Le lendemain, test de sport. Donc là, il y a trois épreuves sportives. Une épreuve de course, une épreuve de force des bras et une épreuve de force des jambes. L'épreuve de course, c'est un luge léger. Donc tous les jeunes qui sont au lycée ont moins fait le test VMA à l'école, donc ils courent autour de la piste, et puis il y a une bande son et il y a un bip, et il faut atteindre un plot tous les 20 mètres au bip. Là, c'est la même chose, c'est juste que c'est sur une distance de 20 mètres, il faut faire des allers-retours. Et à chaque bip, ça augmente. Donc là, c'est assez cardio, il faut s'entraîner. Deuxième épreuve, donc pour les messieurs, ce sont des tractions. Pour les dames, c'est des tirages de poulies sur la machine de sport. Là. Hein, ils tirent un poids, elles tirent un poids et il faut faire un maximum de répétitions.
Ah, c'est pas les mêmes, il n'y a pas les mêmes exercices pour les hommes que pour les femmes à ce moment-là.
Oui, c'est la seule où il n'y a pas le même exercice. Et troisième épreuve, ça reste un maximum de flexion en une minute. Où là, c'est pareil, faut s'entraîner également. Donc ça va nous donner un niveau sportif minimum, donner une image à l'instant T du jeune homme de son niveau sportif ou de la jeune femme. Et enfin, la dernière demi-journée, c'est un entretien de motivation, lambda, style entretien d'embauche, où elle va parler de son envie de s'engager, dans quelle spécialité, si elle a déjà des connaissances sur l'armée, sur où est-ce qu'on va, comment va se passer sa formation, et ainsi de suite. Voilà. Pendant ces deux jours-là, donc l'armée vous paye votre billet aller et retour billet de train, vous êtes nourri logé pendant les deux jours à Lyon, donc vous n'avez rien à débourser pour pouvoir passer vos évaluations. Et ça, c'est un plus, surtout pour des étudiants, qui ça peut être assez compliqué au niveau des moyens.
D'accord, et donc tout ça, vous-même, vous êtes passé par là.
Oui.
Et du coup, est-ce que peut-être vous pouvez nous parler de votre vécu, de comment vous avez vécu votre recrutement, votre engagement, tout ça.
Alors je suis issu d'une grande famille militaire, on va dire, depuis mes grands-parents. Oui, tout le monde est militaire dans ma famille. Je voulais pas faire ça au début. Je voulais faire prof de maths, pourquoi pas dans votre lycée. Je ne sais pas.
Reconversion professionnelle
voilà,
en direct.
C'est fait, voilà. Prenez-moi. Non. Et au final, j'ai fait une préparation militaire à mes 17 ans, où j'ai décidé de découvrir un petit peu l'armée de terre, parce que moi, toute ma famille était dans la marine, et vu que je suis malade sur un bateau, je voulais pas aller dans la marine. Voilà. Donc j'ai découvert l'armée de terre par rapport à cette préparation militaire. Ça m'a beaucoup plu. Donc j'ai passé mon bac, après j'ai commencé des études en école préparatoire maths sup, maths spé, et voilà, je voulais plus aller à l'école, je voulais m'engager. Et donc du coup en 2008, ouais, déjà ça fait 14 ans,
ça tourne,
le coup dieu. je suis allé au centre de recrutement de Brest, parce que je suis
un breton d'origine.
Voilà, tout à fait. La plus belle région de France. Je vais me faire des ennemis, là. Donc, je suis allé au centre de recrutement et où j'ai dit, je veux m'engager. Voilà, donc quelle est la procédure? Donc là, j'ai eu mon recruteur. J'y suis allé en août 2008 pour avoir des informations. Et ils m'ont dit, tu ramènes le dossier. Donc, j'ai ramené le dossier trois jours après, parce que j'étais vraiment fanat pour y aller. Il m'a dit, dans un mois, tu pars à tes évaluations. Et là, il me dit, t'as quel niveau en course ça, c'était toujours été mon fort, la course. On va dire ça comme ça, surtout quand j'étais jeune. Et du coup, il me dit, au niveau des tractions. Donc, il avait une part de traction, donc je suis monté dessus, et j'en ai fait zéro. Voilà. Ah, là, ça va être compliqué, hein, surtout pour ton projet, hein, rentrer dans l'arme blindée cavalerie. Bon, faut être comme assez costaud. Donc, il m'a donné un programme d'entraînement, voilà, informel. Hein, donc, je me suis entraîné, et le jour J, j'en ai fait 10, en un mois. En un mois, je me suis entraîné tous les jours, je me suis donné à fond, j'étais vraiment très motivé. Je suis toujours, hein, je vous rassure. Et donc du coup, je suis parti faire mes évaluations à Rennes en septembre 2008. Et du coup, moi je voulais devenir sous-officier, je voulais commander. Voilà, j'avais cette fibre-là, tout était bon. Et j'ai quand même attendu un an avant de pouvoir m'engager. C'est ça qui a changé par rapport à aujourd'hui, c'est que les temps pour pouvoir s'engager même sous-officier sont quand même un peu plus courts. Voilà. J'ai attendu un an parce qu'il y avait énormément de demandes à ce moment-là. Et donc, du coup, je me suis engagé en septembre 2009. J'ai signé mon contrat directement le matin à Brest. le 1er septembre 2009. Et le jour J, j'étais à l'école des sous-officiers dans la ville de Saint-Mexant-l'École. Et où j'ai déroulé mes 8 mois de formation.
Et donc, à la question, est-ce que votre famille était réticente à l'idée que vous vous engagiez dans l'armée ? La réponse est forcément non, étant donné que c'était une fibre familiale depuis déjà des générations.
Alors, bien sûr, ils étaient très contents. Malgré que ma mère a fait 15 ans dans la marine, avoir ses deux fils dans l'armée de terre, je peux vous dire, elle n'était pas très contente.
Ah, il y avait conflit d'intérêts, là,
non,
à ce moment-là.
Non, c'est pas conflit d'intérêts. Il y a quand même plus de risques dans le métier de l'armée de terre que dans le métier de la marine.
Les risques encourus sont plus forts.
Voilà. Okay. Même si, clairement, on risque pas notre vie tous les jours non plus. Il faut bien faire attention à ça.
Encore une fois, un cliché de l'armée qui est à casser.
Tout à fait. Il y a des risques, évidemment. On n'utilise pas des armes, c'est pas pour faire joujou, malheureusement. Voilà. Mais c'est vrai qu'elle avait un peu peur, quand même. Mais autrement, non, on était... que ce soit mon père et mes grands-pères, ils étaient super fans, bien sûr.
Est-ce que vous êtes pour le retour du service militaire obligatoire ? C'est un sujet qui revient beaucoup dans le débat public, mais est-ce que vous êtes pour ? Est-ce que vous pensez que ça pourrait amener peut-être certaines solutions aussi à des jeunes ?
Alors, je suis désolé, c'est une question politique et je n'ai pas le droit de donner mon avis en tant que militaire sur des questions politiques.
Ah, vous n'avez pas le droit de donner votre avis sur une question comme celle-là ?
Non. À côté de ça, donc, il reste quand même le service militaire volontaire. Il faut savoir que le service militaire n'a jamais été dissous, il est juste mis en pause, et à côté il y a le volontaire, voilà, où les jeunes qui veulent faire leur service militaire peuvent le faire. Donc ça dure un an, donc ils ont une première formation militaire, en gros on va dire d'un mois, un mois et demi, et ils ont une formation également professionnelle qui est comprise dedans, à la fin qui sanctionne soit par un CAP, soit par un BEP, et à la fin de leur année ils passent leur permis, payé par l'armée. Donc ça peut être pas mal. Est arrivé aussi le service national universel.
Oui.
Voilà, ça vous connaissez, c'est de 15 à 17 ans, donc c'est géré par l'éducation nationale. Nous faisons juste des interventions là-bas pour présenter les métiers des armées, comme on a fait au forum toute l'après-midi. Voilà, tout simplement. Et il existe ça pour pouvoir apprendre la citoyenneté aux jeunes. Voilà, et ça c'est aussi sur la base du volontariat.
D'accord, et du coup, quelles sont les raisons qui peuvent pousser les jeunes à faire leur service militaire, à s'engager
Là, de ce que j'en ai vu, de ce que j'ai pu en voir, parce qu'avant j'étais en régiment sur Metz, et il y a un centre du service militaire volontaire à Metz, c'est des jeunes qui sont un peu perdus, qui ont décroché de l'école assez jeunes, qui ne savent pas quoi faire, qui des fois ont eu des petits soucis aussi avec la justice, qui veulent s'en sortir. Voilà, donc volontairement ils y vont, pour pouvoir avoir ce fameux cadre que je vous parlais tout à l'heure, de cette rigueur, de cette discipline, de cet esprit d'équipe en fait. Et ça c'est quelque chose qui est très bien, ce sont des jeunes en fait qui veulent s'en sortir.
Oui, il y a aussi un encadrement psychologique aussi à l'armée pour certains jeunes. Ouais.
Bah, tout à fait, et ça leur permet de trouver un sens à leur vie également. Peut-être d'avoir ce qui leur a manqué quand ils étaient jeunes, peut-être cette sphère familiale, parce qu'il ne faut pas oublier que l'armée c'est une grande famille, on est là chacun les uns pour les autres, on s'entraide, on essaie de faire au mieux pour pouvoir que tout le monde puisse aller dans le même sens, tout simplement.
Si vous nous rejoignez sur BAC FM, notre invité est le sergent-chef Thomas, il nous présente le CIRFA. Justement, la promotion du CIRFA, est-ce que vous le faites aussi dans d'autres structures ? Est-ce que vous intervenez dans différentes structures, que ce soit des structures scolaires, que ce soit d'autres structures aussi ?
Là, la campagne scolaire va commencer, donc vous allez sûrement me voir arriver dans votre lycée. Je pense que ce sera l'année prochaine, donc ce sera soit moi, soit mon collègue. Donc on intervient dans tous les lycées qui veulent bien que l'on intervienne chez eux. Voilà, donc on en fait une demande à tous les lycées de tous les départements, et les lycées disent oui ou non, on veut que les armées soient présentes pour présenter leur métier. On va également dans les collèges, là c'est pareil, c'est les collèges qui nous demandent de venir. Donc là, on commence déjà à avoir pas mal de demandes, on va avoir un calendrier assez chargé. Mais on intervient également aussi au niveau du Pôle emploi et aussi des missions locales. Donc des jeunes qui ont pareil décroché de l'école et qui veulent trouver ce qu'ils vont faire en fait dans l'avenir.
Est-ce que donc des interventions également pour le grand public aussi, à l'image de Forum par exemple, c'est d'ailleurs le Forum des métiers en uniforme auquel vous avez participé il y a quelques heures maintenant, c'était tout à l'heure. Quelle est l'importance d'un événement comme celui-ci, ce Forum ?
Ça permet d'avoir toutes les corps d'armée présents. Donc c'était vraiment le but d'avoir parce que il y a une crise des vocations partout en France, dans tous les métiers, et dans les métiers, on va dire, en gros, de la sécurité, on peut dire ça comme ça, une crise des vocations, voilà, tout simplement, et ça permet en fait aux jeunes qui sont intéressés d'avoir tous ces partenaires-là en même temps, au même endroit, à la même heure.
D'avoir un panel.
D'avoir un panel, tout à fait, de métiers différents, hein, de savoir comment faire pour y rentrer au lieu d'aller voir un coup l'armée de terre, un coup l'armée de l'air, un coup, voilà. Et donc, c'est vrai que ces moments-là sont très importants. Ça permet aux jeunes de trouver sa voie, tout simplement.
Avec Marie, justement, nous nous sommes rendus à ce forum, l'occasion pour nous de découvrir un univers que nous ne connaissions pas énormément. Je vous propose d'écouter ce reportage qu'on a tourné à l'occasion donc de ce forum des métiers en uniforme qui avait lieu tout à l'heure, dans quelques instants. Merci, sergent chef Thomas.
Merci à vous.
Merci
d'avoir répondu au présent au micro de Bac FM. Merci.
Merci à vous.
Notre reportage arrive juste après sur le forum des métiers en uniforme. Eddie, les Red Hot Chili Peppers, c'est tout de suite sur Bac FM. Eddy, les Red Hot Chili Peppers sur Bac FM. Je vous le disais juste avant, nous nous sommes rendus avec Marie aujourd'hui au CIRFA et donc au Forum des métiers en uniforme. Nous avons posé certaines questions aux intervenants sur place et notamment au sergent-chef Ortega, responsable de centre. Il nous présente l'armée de terre.
Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de l'importance du Forum ici au CIRFA ?
Oui, bien sûr. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le département, malheureusement, il n'y a pas grand-chose organisé. D'accord ? Donc si on veut se montrer un petit peu et si on veut attirer des jeunes dans nos différentes entités pour recruter, il faut se montrer, il faut mettre en place ce genre de forum. Sinon, recruter dans la Nièvre, c'est vraiment très compliqué. Et si on ne fait pas ça, on n'y arrive pas.
L'installation de ce genre de forum est compliquée à mettre en place du coup ?
Bon, non, pas du tout. C'est ce genre de forum, on le fait tous les ans. Hein, donc on a déjà tous les contacts. On se rencontre régulièrement avec toutes les autres unités sur différents forums. Voilà, donc dès qu'on veut le mettre en place, c'est assez facile.
Et vous, dans cette organisation, quel est votre rôle exactement ?
Alors moi aussi, je suis le patron, je suis le chef du CIRFA. Moi, j'ai deux rôles. Le premier rôle, c'est toute la partie administrative, qui est quand même assez lourde. Et ensuite, je suis aussi recruteur, donc je recrute aussi des jeunes candidats comme mes conseillers.
Donc vous avez une équipe qui gravite autour de vous pour l'organisation. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous détailler leur rôle à eux, du coup, dans cette organisation ?
Oui, bien sûr. Alors, au sein du CIRFA, on est 4 personnels. D'accord ? Donc, déjà, j'ai le maréchal de logis Rogez. C'est mon agent d'accueil. Donc, c'est lui qui reçoit les jeunes, c'est lui qui les informe au départ et qui les oriente sur les différents conseillers en recrutement en fonction de leur localisation géographique. D'accord ? Parce que au CIRFA, on est 3 conseillers en recrutement et on a chacun une zone de travail. D'accord ? Moi, par exemple, je gère Nevers et son agglomération. J'ai un collègue qui gère toute la partie est-sud-est et une collègue qui gère la partie nord-nord-est.
Okay.
D'accord. Voilà, donc eux, principalement, ils font que du recrutement, donc ils se déplacent beaucoup dans les missions locales, dans les centres sociaux, dans les mairies, dans tous les organismes un petit peu qui participent à l'insertion des jeunes dans le monde du travail.
D'accord.
Alors à ce forum, l'armée de l'air et de l'espace est également présente, il y a la marine aussi. C'est important que tous les corps d'armée soient présents pour que les jeunes qui ont tous un projet différent puissent se renseigner chacun sur leur projet spécifique.
Oui, tout à fait, parce que le jeune qui vient ici et qui n'a pas forcément de projet défini, au moins là, en faisant le tour un petit peu de toutes les entités qui sont présentes, ça peut lui donner une voix sur son projet auquel il n'avait pas pensé au départ.
Merci beaucoup.
Je vous en prie.
L'armée de l'air et de l'espace aussi était présente à ce forum. Alors l'armée de l'espace, c'est tout nouveau et c'est le sergent-chef Andrés qui nous la présente.
Alors du coup, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter, s'il vous plaît ?
Oui, bien sûr. Bon, bonjour, je suis le sergent-chef Andrés. Donc moi, j'ai commencé par la gendarmerie. Voilà, j'ai un bac littéraire. J'ai arrêté mes études en BTS et du coup, je me suis engagé dans la gendarmerie. Et j'ai fait ensuite sous-officier dans l'armée de l'air. Donc j'ai à peu près 13 ans dans la logistique. Et depuis un an, je suis dans le recrutement, donc je travaille au CIRFA, bureau R de Bourges, sur la base aérienne d'Avor.
Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'implication, qu'est-ce que cela implique de faire partie de l'armée de l'air, et aussi du coup, surtout, de l'armée de l'espace, qu'est-ce que ce terme, qu'est-ce qu'il signifie, et depuis quand est-ce qu'il existe ?
Alors, nous sommes armée de l'air et de l'espace aujourd'hui. Donc, l'armée de l'air, en fait, et de l'espace, ça sert à la sécurité, en fait, des Français. Hein. Donc, en France et aussi à l'étranger. Donc, la sécurité de l'espace aérien, notamment. Donc, la mise en place aussi de la posture permanente de sûreté. Il faut savoir que nous, en France, on a la chance quand même d'être en sûreté via nos interventions récurrentes dans le domaine aérien. Il faut savoir qu'on a des avions de chasse qui décollent en quelques minutes. D'accord. Pour ma part, représenter la base aérienne d'Avor, sur la base aérienne d'Avor, nous, on les appelle les anges gardiens du ciel, ça va être les missiles sol air. Et puis on a aussi la WAX, donc qui fait partie de la posture permanente de sûreté, qui fait des décollages récurrents pour la sécurité aérienne. Voilà. Et l'armée de l'air et de l'espace, donc aujourd'hui l'espace parce que on a les satellites, donc forcément des prises de vue satellitaires, on va toujours de plus en plus loin, de plus en plus haut.
Donc c'est très récent, cette armée de l'espace.
Oui, bah depuis quelques années, oui, depuis 2 ans, il me semble. Donc, armée de l'air et de l'espace aujourd'hui. Voilà, c'est surtout, comme je vous l'ai dit, le domaine de l'espace, une nouvelle dimension qui s'ouvre à l'armée de l'air.
C'est surtout technique ou il y a aussi beaucoup de pratique en rapport avec l'armée de l'espace?
Alors ça, c'est un domaine qui est un peu nouveau, d'accord, mais bien sûr, ça va être hyper technique, hein. Tout ce qui est domaine spatial, c'est assez nouveau, hein, forcément. Donc, on voit de plus en plus de postes s'ouvrir, notamment pour les officiers, hein. Mais oui, tout ce qui est domaine satellitaire, tout ce qui est domaine spatial, oui, ça, c'est forcément assez technique. Ouais.
Le service pénitentiaire également était présent à ce forum, et c'est le brigadier Frédéric Lieudenant qui a répondu à nos questions.
Bonjour, Frédéric Lieudenot, donc je suis surveillant brigadier et je fais partie de l'unité de promotion des métiers pénitentiaires.
Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre mission en tant que brigadier pénitentiaire, s'il vous plaît?
Donc je suis actuellement chargé de promotion des métiers pénitentiaires, donc en fait très peu de personnes connaissent réellement les missions de l'administration pénitentiaire. Et nous devons faire face à une grosse demande en termes de recrutement pour pallier en fait à des départs en retraite, à des nouvelles missions. L'administration pénitentiaire a 2 missions principales. Elle a une mission de sécurité et de réinsertion sociale, qui est plutôt dédiée au personnel en uniforme. Et elle a une autre mission, c'est la prévention de la récidive, qui est plutôt dédiée sur ce qu'on appelle les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre place ici, donc dans ce forum, et ce qui fait que vous rejoignez un petit peu les fonctions des autres métiers en uniforme?
Donc en fait, l'administration pénitentiaire est la 3e force de sécurité du pays, et au même titre que mes collègues en uniforme, nous avons une mission similaire, en fait, c'est protéger la société. Donc on protège tous la société de façon différente. Nous, notre mission, c'est en fait de faire en sorte de maintenir les personnes dangereuses, si on peut dire, à l'intérieur, mais aussi de faire en sorte que quand elles ressortent, elles ne représentent plus un risque pour la société. D'où la prévention de la récidive.
On sort d'un entretien avec le SDIS, donc les pompiers de la Nièvre. Il a lancé une sorte d'appel aussi à l'engagement et au manque d'effectifs qu'il y avait dans la Nièvre, mais même en France, hein, je pense globalement, à l'image de plein d'autres fonctions publiques, il manque d'effectifs. Est-ce que c'est le cas aussi dans le service pénitentiaire? Est-ce qu'il y a un vrai manque d'effectifs? Et est-ce que vous recherchez aussi à ce que de nouvelles personnes s'engagent de plus en plus?
Alors oui, tout à fait. Je pense que comme mes collègues au niveau des métiers de la sécurité, on recherche tous des recrutements. Alors comme j'expliquais tout à l'heure, on doit faire face en fait à un gros départ en retraite, et nous avons aussi l'administration pénitentiaire de nouvelles missions. Donc en fait, c'est un peu le principe des vases communicants, donc il va nous falloir énormément de personnel de surveillance justement pour remplir ces missions.
Il n'y a pas de profil type aussi pour être employé pénitentiaire, je pense le bon terme que j'emploie.
Donc c'est pénitentiaire, c'est plus américain, mais alors on recherche effectivement, on n'a pas forcément de profil type. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'administration pénitentiaire, nous avons notre propre école, donc c'est l'ENAP, l'École Nationale de l'Administration Pénitentiaire, qui va former en fait tous les agents. Donc un surveillant, après concours, partira à l'ENAP, donc pendant une formation de 6 mois en alternance, donc c'est 6 mois rémunérés, et ce sera 5 semaines théoriques, 5 semaines pratiques sur le terrain, 5 semaines théoriques, 5 semaines pratiques. Et c'est valable pour tous les autres métiers, hein, que ce soit officier ou conseiller pénitentiaire insertion de probation, ou directeur pénitentiaire insertion de probation, ou directeur des services pénitentiaires, on passe obligatoirement dans notre école, donc c'est pour ça que c'est vraiment pour tout type de public, et tout profil.
On entendait juste avant dans l'entretien avec le sergent-chef Thomas la part des femmes aussi dans l'armée. Est-ce que c'est le cas dans votre administration? Est-ce que les femmes sont de plus en plus présentes et s'engagent aussi de plus en plus?
Au-delà d'être plus présentes, c'est qu'on en a aussi besoin. Puisqu'il ne faut pas oublier aussi que nous avons des personnes détenues femmes, et donc on doit être capable de les transférer lors d'extraction judiciaire, donc on a besoin aussi de femmes. Et pour casser vraiment tous ces préjugés, oui, une femme peut être surveillante pénitentiaire, et là j'insiste vraiment là-dessus.
Oui, parce que aussi son approche aussi peut être différente et peut être d'une utilité évidente aussi dans la démarche de certains prisonniers et dans la manière de communiquer avec eux peut-être.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte à travers les années qu'il y avait un certain apaisement, le fait d'emmener des personnels féminins à l'intérieur de nos murs.
Merci.
Merci à vous.
Les corps de l'armée, mais également les pompiers, étaient présents avec le sergent-chef Baptiste Rapneau.
Actuellement, sur le forum des métiers en uniforme, nous sommes avec le SDI. Je vous demandais avant tout de vous présenter.
Oui, bonjour. Donc, je suis sergent-chef Baptiste Rapneau, donc sapeur-pompier volontaire de mon état depuis 14 ans, et je travaille au sein du service départemental d'incendie et de secours de la Nièvre, donc le SDI 58, les sapeurs-pompiers de la Nièvre, au sein du service citoyenneté et promotion du volontariat. Donc, on est ici notamment pour promouvoir l'engagement l'engagement volontaire et l'engagement chez les sapeurs-pompiers dans sa globalité, allant du volontariat au concours de professionnels.
Ici donc au CIRFA, au Forum des métiers en uniforme, donc ça concerne les différents corps d'armée, l'armée de terre, l'armée de l'air et de l'espace, l'armée maritime également. En quoi le SDIS et donc les pompiers sont un métier en uniforme comme les autres, en fait?
En effet, hein, pour faire notre mission, nous sommes en uniforme, l'uniforme qu'on reconnaît assez facilement, c'est marqué dessus, sapeur-pompier. On est donc dépendant donc pas de l'armée, mais de la fonction publique territoriale. Hein, on est un établissement public, le SDIS, et on a 45 centres de secours sur le département de la Nièvre, où on recrute régulièrement, et j'ai envie de dire quasiment quotidiennement, des sapeurs-pompiers volontaires, dans un premier temps, et pour ceux qui le souhaitent, derrière, on peut les accompagner pour la préparation et se préparer au concours de sapeurs-pompiers professionnels. Donc cette fois-ci, en faire son métier. Derrière, on va avoir plusieurs recrutements de sapeurs-pompiers professionnels dans les prochaines années. Donc c'est aussi l'occasion de déceler les profils qui seraient intéressés par l'envie de s'engager au quotidien pour la population, le secours de la population, la lutte contre les incendies, et en faire à la fois une activité à côté de son travail en étant volontaire, ou derrière, en faire son métier en tant que professionnel.
Professionnalisé dans ce corps-là. Juste avant qu'on arrive, il y avait un jeune qui était avec vous, je ne sais pas, vu d'œil, il était quand même très jeune, je pense qu'il avait 14-15 ans,
peut-être encore. Ouais.
Comment on s'adresse à un jeune qui se dirige peut-être pas encore vers les corps d'armée? Je pense que voilà, sa volonté, c'était avant tout d'être pompier volontaire au début, ou peut-être après en faire sa profession, j'imagine. Comment on s'adresse à un jeune comme ça, qui n'est plus un enfant, mais qui n'est pas encore un adulte, en fait?
Et bien justement, nous, ce qui est intéressant avec le volontariat, c'est qu'on va s'adresser à des jeunes allant de 16 ans et jusqu'à l'âge de 60 ans. Donc on a un spectre de recrutement qui est très large.
L'engagement, c'est à partir de 16 ans, pompier volontaire?
On peut commencer à partir de 16 ans en tant que sapeur-pompier volontaire. Donc derrière, un jeune qui a envie de s'investir au niveau local, et là c'était le cas, un jeune qui habite au cœur du département, dans une petite commune, a envie de s'engager pas très loin de chez lui, rester sur le territoire, faire des études qui vont le mener à un travail au niveau local, là c'était notamment en mécanique. Derrière, lui a envie aussi de donner du temps aux autres, au secours des autres, et il s'est tourné vers les sapeurs-pompiers, chose tout naturelle puisqu'on est présent au niveau local avec nos 45 centres de secours.
Quelle est la première question qui vient à un jeune comme ça et qui s'adresse à un pompier comme vous? Quelle est sa première question?
La première question, c'est comment je fais pour devenir sapeur-pompier volontaire et est-ce que je vais pouvoir partir en intervention rapidement? Et la réponse, c'est donc avoir 16 ans, entre 16 ans et 60 ans pour l'âge de recrutement, avoir une bonne condition physique et médicale. Alors, on ne demande pas des athlètes, mais une personne qui puisse courir un minimum, porter une charge sur le dos, un sac de secours, c'est une dizaine, une quinzaine de kilos. Donc, il faut être capable de porter ça, prendre en charge des victimes, les brancardés, etc. Mais sans pour autant être des athlètes. Une bonne condition médicale, donc pas de problème de santé connu, de gros problèmes de santé connus. Être vacciné contre l'hépatite B et la vaccination Covid. Donc ça, c'est quelque chose qui est obligatoire chez nous. Et derrière, avoir du temps à donner. Une fois que ça, c'est bon, on va l'orienter sur un dossier de recrutement dans le centre de secours le plus proche de chez lui. Et il va pouvoir, derrière, dès que le dossier est validé, qu'il est passé devant une visite médicale au niveau de notre service de santé et de secours médical interne au SDIS 58, il va commencer son cycle de formation qui va, si je condense toutes les modules de formation, c'est à peu près un mois de formation qui l'attend, qui peut être réparti sur 3 ans d'engagement, les 3 premières années d'engagement. Et derrière, à chaque obtention d'un module de formation, il peut partir en intervention sur les interventions qui sont liées à cette formation.
Il y a une sorte aussi de prévention, de pas lui montrer aussi que c'est pas tout de suite, mais que voilà, il pourra toucher à tout au fur et à mesure aussi de son engagement, et donc que ça viendra au fil du temps, en fait.
De toute façon, on apprend au quotidien. C'est un engagement qui se fait aussi, oui, sur le long terme, comme vous le faites remarquer. On n'apprend pas tout d'un coup. Au début, c'est la formation initiale avec les bases en tant qu'équipier sapeur-pompier volontaire. Puis, avec l'âge, avec l'expérience, on va pouvoir monter les échelons et monter en grade, en responsabilité et en expérience et en formation.
On voit beaucoup de spots télé pour l'armée de terre, de l'air et de la marine qui demandent à s'engager, qui promouvoient l'engagement des jeunes, comme de tous. Est-ce que les pompiers aussi demandent à ce que beaucoup plus de personnes s'engagent? Est-ce qu'il y a un manque d'effectifs, en fait, comme beaucoup d'autres services publics, notamment les hôpitaux aussi, on pourrait les citer?
Alors, on a besoin de recruter, en effet. Nous, dans le département de la Nièvre, aujourd'hui, c'est, si je grossis le trait, c'est 1300 sapeurs-pompiers, 1150 sapeurs-pompiers volontaires et 150 sapeurs-pompiers professionnels. Donc, ça repose véritablement sur le volontariat. Et on a chaque année à peu près 100 départs de sapeurs-pompiers volontaires qui arrivent en fin de carrière ou qui, les aléas de la vie font qu'ils déménagent, etc. Donc, on doit recruter 100 sapeurs-pompiers volontaires au minimum pour garder les effectifs constants. Et l'idéal, ce serait dans une grande partie de nos centres de secours du département, j'ai envie de dire quasiment tous les centres de secours du département, hormis peut-être Nevers, où on a besoin de recruter des sapeurs-pompiers volontaires pour faire face à la charge opérationnelle. Donc toutes les personnes qui souhaitent s'investir, souhaitent s'engager, n'hésitent surtout pas à prendre contact avec nous.
Appel lancé, donc merci.
Merci à vous en tout cas.
La gendarmerie également était présente à ce forum avec l'adjudant-chef Morand, l'occasion pour nous donc de lui poser certaines questions.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ?
Alors, je suis l'adjudant-chef Morand, Franck, donc de la gendarmerie de la Nièvre. Je travaille à Nevers dans une brigade départementale de renseignement et d'investigation judiciaire. Je fais mon métier au courant, mais j'ai une autre activité en plus, c'est-à-dire je suis référent recrutement. Et je suis chargé d'essayer de recruter les futurs gendarmes qui sont là pour nous remplacer dans un futur proche.
Donc justement, c'est pour ça que vous êtes ici. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre place ici dans ce forum ?
Oui, donc nous sommes là avec l'adjointe Turpin pour essayer de recruter les futurs militaires, hein, parce que la gendarmerie, c'est bien sûr militaire, pour l'avenir. Notamment les gendarmes adjoints volontaires, hein, qui sont une base quand même essentielle de la gendarmerie, hein, et c'est les futurs militaires qui seront là pour nous remplacer.
Parmi donc ces futurs militaires qui sont là pour la nouvelle génération, donc on parlait encore une fois avec le sergent Thomas de la place de la femme dans ce métier. Qu'en est-il du coup dans la gendarmerie de la place des adjudantes et globalement des femmes gendarmes ?
Alors, les places des femmes dans la gendarmerie a évolué au fil des années, très importante, hein, par rapport au tout début. Moi, je suis rentré, ça fait 35 ans de carrière en gendarmerie. Au tout départ, on n'en avait pas beaucoup, hein. Et au fur et à mesure des années, ben, on a vu la place des femmes considérablement évoluer. Hein. À titre d'exemple, dans une brigade à peu près normale, qui a, je sais pas combien, on peut avoir 9 personnels, il y en a presque la moitié de femmes dans gendarmerie.
Alors qu'auparavant,
c'était pas le cas. Hein. Alors, ce qu'il y a précisé aussi, c'est que les femmes gendarmes peuvent être également, alors, dans gendarmerie départementale, mais également dans les escadrons de gendarmerie mobile. Hein, il y a quand même beaucoup de femmes qui peuvent se présenter dedans.
Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre la brigade gendarmerie et la brigade mobile, s'il vous plaît ?
Alors, la gendarmerie départementale, on est chargé en règle générale de la police judiciaire. Police judiciaire, mais pas seulement uniquement. On est là aussi sur la route, hein, avec les brigades motorisées. Vous voyez, c'est tout ce qui est au niveau judiciaire. Ça, on appelle ça la blanche, c'est la gendarmerie départementale. Ensuite, la gendarmerie mobile. Gendarmerie mobile, eux, ils sont là pour le maintien de l'ordre. Maintien de l'ordre, on peut les comparer à nos amis de la police avec les CRS. Hein. C'est le même métier, hein, dedans. Mais il y a également aussi la garde républicaine, qui sont là pour la sécurité ben, des personnalités, des palais présidentiels.
Au niveau du salaire, est-ce qu'il est le même ?
Oui, tout à fait. C'est ce qui est très intéressant chez nous. En fin de compte, c'est entre hommes et femmes, c'est exactement le même statut, le même salaire. Hein, que vous rentriez jeune gendarme, que vous terminiez en fin de carrière, ça sera exactement le même salaire qu'un homme. C'est ce qui est très intéressant.
Ça, c'est assuré pour toutes les jeunes femmes et tous les jeunes hommes qui rentrent dans la gendarmerie.
Oui, tout à fait. C'est dans les statuts. C'est comme ça. Bien au contraire, ça peut inciter justement les jeunes femmes à rentrer chez nous. Et c'est un super challenge. Ouais.
Votre place ici au forum, elle est aussi de répondre aux questions des jeunes personnes qui veulent s'engager dans la gendarmerie. Moi, ma question, elle est simple. Quelle est la première question qui vient d'un jeune homme ou d'une jeune femme qui veut s'engager dans la gendarmerie ? Tout à l'heure, on parlait avec votre collègue du SDIS, donc les pompiers, qui me disaient que la première question, c'était quand est-ce que je pourrais intervenir pour la première fois ? Est-ce que c'est aussi ce qu'ils recherchent dans la gendarmerie, c'est de tout de suite passer à l'action et peut-être un petit peu, ils recherchent un petit peu la précipitation peut-être ?
Oui, alors là-dedans, on reçoit beaucoup de jeunes qui regardent les émissions de télévision, les reportages.
90
les...
minutes d'enquête qui passent sur TMC tous les jeudis, ça on connaît. Ouais.
C'est ça, tout à fait. Et donc, ça les incite. Donc, à chaque fois, on dit comment on fait pour entrer. Alors, c'est beaucoup. Comment on fait pour entrer au JGN, ou pour être maître chien, pour être à l'intervention. Donc, on les aiguille, on leur dit attention, la route est peut-être un petit peu longue, c'est-à-dire qu'il faut rentrer chez nous en passant un concours par le tronc commun, et après, on choisit ces différentes sortes de métiers. Hein. À titre d'exemple, quand on rentre chez nous, il y a plus de 200 métiers différents qui peuvent s'ouvrir. Donc il n'y a pas simplement la police judiciaire, maître JGN ou maître chien, il y a 200 métiers différents qui peuvent s'ouvrir à nous. Donc à eux, pardon, dedans. Donc c'est super intéressant ce qu'on peut leur offrir.
Donc vous avez aussi le discours de ne pas confondre vitesse et précipitation, mais également aussi de les motiver à s'engager aussi dans la gendarmerie.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que pour rentrer en gendarmerie, il n'y a pas forcément besoin de diplôme. Hein, parce que la fonction de gendarme adjoint volontaire, on peut rentrer chez nous bien sûr par un petit concours qu'il faut préparer, mais c'est ouvert aux jeunes à partir de 18 ans sans condition de diplôme, hein, et à partir de ce moment là ils peuvent voir si le métier de gendarme est fait pour eux et après postuler pour être sous-officier de carrière, voir si après officier au fur et à mesure de l'évolution de carrière.
Merci.
Bon, ben, merci à vous et bonne continuation, au revoir.
Et puis l'armée de terre, l'armée de l'air et la ma... Et puis l'armée de terre, l'armée de l'air et la ma... Oh putain ! Et puis l'armée de terre, l'armée de l'air et l'armée de l'espace, mais également la marine, étaient présentes. Et premier maître Julien répond donc à nos questions. C'est le dernier intervenant de ce forum et de ce reportage donc.
Dernier intervenant en direct du forum des métiers en uniforme. Nous sommes sur le stand de la marine qui recrute. Donc. Bonjour, je vais vous demander une première question de vous présenter. Mmh.
Bonjour, donc je suis le premier maître Julien, je suis gestionnaire des ressources humaines de spécialité et donc recruteur au centre d'information et de recrutement des forces armées marines à Dijon.
Alors, premier maître, c'est ça ?
Premier maître.
Premier maître, alors.
Exactement.
On a reçu le sergent-chef Thomas qui nous a expliqué ce qu'était son statut. Premier maître, ça veut dire quoi ?
Alors, premier maître, si on veut avoir une équivalence de grade dans les autres armées, c'est un niveau d'adjudant. Et après, en termes de carrière, moi, je suis en CDI, si vous voulez, de carrière, quoi.
Alors, c'est ce qui montre aussi la différence entre les corps aussi d'armée de terre et d'armée de l'air, c'est qu'il y a aussi le grade, enfin, le statut qui change, en fait, le nom de statut, si on peut dire, la désignation qui change. Qu'est-ce qui différencie la marine de l'armée de terre et de l'armée de l'air, mais qu'est-ce qui aussi les rejoint finalement, parce que vous faites partie de l'armée.
Alors effectivement il y a un écart de dénomination pour les grades, mais pour autant les statuts sont sensiblement similaires. Ce qui nous rapproche finalement, ce sont l'ensemble des métiers proposés, l'évolution, l'escalier social, j'ai envie de dire, le fait que nos formations soient rémunérées. Donc quand on a 18 ans, qu'on est formé, nourri, logé et soldé, donc payé, c'est quand même pas négligeable, et ça, c'est ce qui nous rapproche. Ce qui peut nous différencier, c'est l'essence même de notre armée, à travers le fait que nous sommes déployés sur tous les océans et avons vocation à voyager et à être indisponibles sur le long terme. Mais l'armée de l'air et l'armée de terre connaissent ça aussi avec les OPEX et des déploiements de parfois 6 mois.
Quel est votre rôle ici sur ce forum auprès des jeunes qui viennent se renseigner, qui viennent vous poser des questions ?
D'informer sur l'ensemble des métiers, puisque on présente déjà des métiers finalement. Être marin, c'est pas un métier. On a des spécialités. Donc on a de l'électricien, on a du mécanicien, on a du cuisinier, on a du gestionnaire des ressources humaines comme moi.
En fait, encore une fois, on retrouve tous les métiers du civil dans ce corps d'armée en fait.
C'est tout à fait ça, voilà.
C'est ce qui permet la vie sur le bateau, en fait, si je comprends bien.
Exactement, avec des spécialités un peu atypiques, forcément, puisque un détecteur anti-sous-marin, on ne le trouvera pas dans un bureau à EDF,
par exemple. Normalement, non.
Normalement, non. Voilà, avec des spécificités. Moi, je suis là pour informer sur l'ensemble de ces spécialités et métiers.
Eh ben, merci beaucoup. Merci. Et puis, bonne continuation sur ce forum. Donc.
Merci à vous. C'est très gentil de m'avoir interviewé.
Voilà, Bac FM, tout de suite, le retour du son pop rock. C'est la fin de cette émission Job. Je vous retrouve demain à 13h. Bonne soirée.